Chers amis auditrices et auditeurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle étude de la Bible dans cette leçon de l'école du sabbat.
Bonjour, bienvenue Bernard.
Bonjour Dominique et bonjour chers amis.
Alors nous allons voir cette semaine, donc du 12 au 18 septembre 2009, la leçon 12 qui a pour titre
« La lettre de Jean à Kyria, la dame choisie ». Et nous avons un verset à mémoriser.
Celui de 2 Jean 9 « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans l'enseignement du Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cet enseignement a le Père et le Fils. » Et nous avons plusieurs questions clés cette semaine.
Quel est ici le message fondamental de Jean et en quoi rappelle-t-il le précédent? Comment l'auteur rapproche-t-il le concept d'amour et celui de vérité? Quel est le lien entre l'amour et l'observation des commandements? Pourquoi Jean prend-il au sérieux le problème des enseignements erronés? Et pourquoi recommande-t-il aux membres de ne pas accueillir les faux docteurs?
La deuxième lettre de Jean ressemble à la première sous bien des rapports. Elle est certes plus courte, mais on y retrouve le même vocabulaire, les mêmes thèmes, le même souci des croyants, ainsi que la même petite touche personnelle. Toutefois, contrairement à la première épître, la seconde a vraiment la forme d'une lettre, avec une vraie introduction et une vraie conclusion.
Entre les deux, on peut trouver des louanges, une exhortation à aimer et à marcher selon les commandements, et une partie ayant trait aux antichrists. La brièveté de cette deuxième épître, comme celle de la troisième, est peut-être due aux dimensions réduites de la feuille de papyrus qui lui sert de support. Si c'est vraiment le cas, l'apôtre a certainement soigneusement pesé ses mots à mesure que le Saint-Esprit l'inspirait.
Et nous allons commencer cette semaine avec la journée du dimanche 13 septembre qui a pour titre
« Dans l'amour et la vérité ».
Une lecture sommaire de cette deuxième épître laisse supposer que cette lettre s'adresse à un groupe de croyants plutôt qu'à une seule femme. Ce serait d'ailleurs assez logique dans la mesure où, ailleurs dans le Nouveau Testament, l'Église est assimilée à une femme. Les destinataires sont donc des chrétiens matures et non des enfants au sens propre du terme.
Eh bien, nous allons relire donc dans 2 Jean les versets 1 à 3.
L'ancien à Kyria, l'élu et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et non pas moi seulement, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. La grâce, la miséricorde et la paix seront avec nous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour.
Remarquons que dans ces versets, Jean utilise le mot « vérité » en association avec le mot « amour ». Pour comprendre la nature de l'amour existant entre chrétiens, il faut adjoindre à ce mot un autre concept, c'est la vérité. On peut donner à l'amour un sens purement émotionnel, voire sensuel et superficiel. L'amour chrétien, lui, est un amour vrai, c'est-à-dire qu'il s'exprime dans un contexte de vérité.
Parler de vérité revient à évoquer Dieu, mais aussi Jésus, qui est la vérité, ainsi que le Saint-Esprit. Tout comme le Saint-Esprit demeure pour toujours avec les croyants, la vérité est pour toujours avec eux. La vérité et l'amour renvoient tous deux à Dieu et vont de pair dans la foi et l'expérience chrétienne.
Il semble que la vérité et l'amour constituent un thème principal de la deuxième épître de Jean. Même si l'apôtre parle un peu plus de l'amour au verset 5 et 6, il précise ensuite que la vérité est nécessaire pour discerner les erreurs et leurs conséquences et pour demeurer dans l'enseignement du Christ.
Nous considérons souvent que l'amour est quelque chose de bon en soi, indépendamment du contexte. N'avons-nous pas expérimenté à quel point l'amour peut être difficile à vivre en dehors de la vérité? Cette expérience ne nous fait-elle pas mieux comprendre combien il est important que l'amour existe dans un contexte de vérité plutôt qu'en dehors de celui-ci?
Oui, nous avons maintenant les quelques jours qui suivent devant nous. Et le lundi, tout d'abord, le 14 septembre 2009. Et là, nous allons voir comment...
marcher selon les commandements.
Et nous avons donc tout d'abord un premier texte.
Celui de 2 Jean 4 à 6. Et nous allons commencer par les versets 4 et 5.
Je me suis beaucoup réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, Kyria, ce que je t'écris ainsi n'est pas un commandement nouveau, mais seulement celui que nous avons eu dès le commencement. Je te demande que nous nous aimions les uns les autres. Et maintenant le verset 6.
Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement.
Ce qui est dit au verset 4 est une source d'encouragement à la fois pour l'Église et pour Jean. Il est réconfortant et encourageant pour les membres d'Église d'apprendre que les anciens se réjouissent de ce qu'ils vivent dans la vérité. Cela les incite à poursuivre leur cheminement chrétien dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. On retrouve ce commandement dans 1 Jean 3, verset 23, où il nous invite à croire en Jésus et à nous aimer les uns les autres.
Après s'être réjoui, Jean adresse à ses lecteurs une requête qui est également une exhortation. Il s'agit à nouveau du commandement qui demande de s'aimer les uns les autres. Jean passe ainsi de la notion de commandement à celle d'amour, puisque l'objet de ce commandement est précisément l'amour.
Il continue au verset 6, mais en inversant le mouvement et en passant de l'amour au commandement, au pluriel, on manifeste son amour en observant les commandements de Dieu. En d'autres termes, nous avons reçu le commandement de nous aimer les uns les autres, et cet amour, nous le démontrons en observant les commandements.
Comme il est intéressant de voir que le fait de respecter la loi, les règlements, les obligations et les interdits est si étroitement lié à l'amour. Pourtant, c'est tout à fait logique. L'amour n'est pas seulement ce que l'on ressent, mais aussi ce que l'on fait, la façon dont on le fait et dont on se comporte avec l'autre. Et même si l'amour authentique va plus loin que le simple respect des 10 commandements, on ne peut le dissocier des principes qu'ils contiennent.
Voyons maintenant ce que nous allons étudier dans la journée du mardi 15 septembre 2009. Et là, il s'agira de...
d'aller plus loin que les enseignements du Christ.
En lisant la deuxième épître de Jean, les versets 7 à 9, nous verrons contre quoi Jean nous met en garde et ce qu'il risque de se passer si nous nous laissons prendre par les séductions qui nous ont été signalées. Nous avons un premier texte dans 2 Jean, les versets 7 et 8.
Car dans le monde sont entrés plusieurs séducteurs qui ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair. Voilà le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même afin de ne pas perdre le fruit de notre travail, mais de recevoir une pleine récompense. Et le verset 9.
Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine a le Père et le Fils.
Dans ces versets, nous retrouvons le thème des faux docteurs et de leur fausse compréhension de Jésus. La situation semble être la même que celle déjà rencontrée dans la première lettre. Elle est si désastreuse que de nombreux croyants ont quitté l'Église et sont même devenus eux-mêmes des imposteurs. Bien sûr, d'autres marchent toujours dans la vérité, mais le berger se lamente pour chaque croyant ayant quitté Dieu et son Église.
La conception que les antichrists ont de Jésus est très différente de l'enseignement des apôtres. Les membres d'Église doivent faire attention à ne pas se laisser influencer par eux. Jean le déclare ouvertement. D'une part, les chrétiens peuvent s'égarer. D'autre part, le concept « une fois sauvé, toujours sauvé » est totalement inexact.
Lisons encore quelques recommandations sur l'importance, justement, d'avoir une doctrine juste. Et prenons Matthieu 16, 12.
Alors ils comprirent qu'il avait dit de se garder non pas du levain, du pain, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens.
Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et prenons encore Romains 6, 17.
Mais grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été transmise.
Jean est loin de penser que la doctrine importe peu. Pour lui, des enseignements qui sont faux peuvent faire perdre la vie éternelle. C'est pourquoi la doctrine est très importante.
Mais celui qui accepte l'enseignement biblique, celui des apôtres, et qui y demeure fidèle, a le Père et le Fils. Dieu le Père et Jésus sont placés sur un pied d'égalité. Quand on rejette l'enseignement concernant le Christ, on perd sa relation avec le Père.
Et maintenant, nous sommes invités à méditer avec les questions suivantes. Peut-être avons-nous déjà eu affaire à de faux docteurs ou à de fausses doctrines? Où ces enseignements ont-ils risqué de nous mener? Qu'avons-nous appris? Et nos expériences pourraient-elles aider quelqu'un se trouvant dans le même cas?
Oui, réfléchissons à toutes ces mises en garde qui nous sont proposées. Et nous avons le mercredi 16 septembre 2009 maintenant, où il s'agira de...
Peut-on refuser l'hospitalité?
La Bible considère l'hospitalité comme ayant une grande valeur. Jésus fréquentait les péagers, les pharisiens et d'autres gens dont la théologie ou le mode de vie n'était peut-être pas toujours correct. Lisons maintenant en quoi son attitude correspondait à ce que Jean déclare. Et nous allons voir maintenant un premier texte dans la deuxième épître de Jean, les versets 10 et 11.
« Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « salut », car celui qui lui dit « salut » participe à ses mauvaises œuvres. » Prenons à présent Matthieu 10, les versets 14 et 15.
« Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, « sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. En vérité, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorre sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. » Et un autre texte dans l'évangile de Matthieu toujours, mais chapitre 18 et versets 15 à 17.
« Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. »
Certes, l'hospitalité est une vertu chrétienne, mais dans certaines limites. Dans le cas où elle conduit à soutenir, directement ou indirectement, de fausses doctrines, il vaut mieux y renoncer. Au premier siècle de notre ère, les enseignants voyageaient, prêchant en différents lieux et résidant chez des membres d'église qui leur offraient nourriture et logement.
Accueillir ceux qui propageaient de fausses doctrines, c'était d'une certaine manière les encourager dans leur vue et favoriser leurs activités. En outre, les membres d'église qui hésitaient entre l'enseignement apostolique et les fausses doctrines pouvaient se retrouver dans la confusion ou même faire un mauvais choix en voyant un membre important de l'Église inviter chez lui de tels imposteurs.
Jean ne demande pas que l'on haïsse de tels gens, ni que l'on évite tout contact avec eux, mais que chacun soit bien conscient que son attitude pourrait être comprise comme une façon d'approuver les idées contraires à la vérité. Il nous faut donc être très prudent dans ce domaine.
Comme cela a été suggéré, ce qui préoccupe Jean dans les versets 10 et 11, ce n'est pas tant l'attitude du croyant individuel que celle de l'Église tout entière. L'expression « chez vous » ou « dans votre maison » ne désigne pas une demeure privée, mais l'endroit où l'Église se réunit pour le culte. L'Église ne doit pas encourager un enseignant qui prêche une hérésie.
Aujourd'hui, nous avons sans doute oublié combien une hérésie peut poser de problèmes. Certains considèrent même que parler d'hérésie revient à porter un jugement ou à faire preuve de mépris, alors que les Écritures abordent souvent ce sujet. Jean nous rappelle qu'il existe une différence fondamentale entre la vérité et l'erreur.
Et maintenant, nous sommes invités à réfléchir à l'effet que nos actes produisent sur les autres et à la facilité avec laquelle nous pouvons les influencer, en bien ou en mal, par notre exemple. Quelle image du Christ reflétons-nous ? Quel progrès avons-nous à faire dans ce domaine ?
Et nous voici au jeudi 17 septembre 2009, et là nous allons voir comment
communiquer les uns avec les autres.
Et voici un premier texte qui nous est proposé, c'est la deuxième épître de Jean, les versets 12 et 13.
« Quoique j'ai beaucoup à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler de vive voix, afin que notre joie soit complète. Les enfants de ta sœur, l'élu, te saluent. »
Nous arrivons à la fin de cette deuxième épître, et ces versets 12 et 13 tiennent lieu de conclusion et nous permettent de constater à quel point Jean s'intéresse à ses lecteurs et désire les rencontrer personnellement.
L'expression « pour que notre joie soit complète » pourrait laisser deviner que les raisons qui poussent Jean à vouloir rencontrer ses croyants soit du même ordre que la fraternité que partageaient les communautés de l'Église primitive, comme nous pouvons le lire dans Actes 2, versets 42 à 47.
Nous lisons tout d'abord les versets 42 et 43. « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. » Versets 44 et 45.
« Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. » Et nous continuons avec les versets 46 et 47.
« Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. » Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés.
Jean vient de donner un message plutôt fort, où, quand il s'agit des antichrists, il ne laisse aucune place à la négociation ou au compromis. Il nous rappelle en cela Paul quand il écrivait aux Galates. Il avait probablement la possibilité de délivrer ce message oralement, mais la communication écrite présente aussi des avantages.
On accordait une importance spéciale ainsi qu'une certaine autorité aux lettres des apôtres. On les prenait donc au sérieux. L'épître est sans doute parvenu à ses destinataires plus rapidement que si son auteur était allé chez eux en personne. L'urgence de la situation exigeait une réaction rapide.
Le message de Jean a été conservé. Il a pu ainsi servir aux autres églises de son époque, comme aux générations suivantes, qui se sont trouvées dans des situations similaires.
Une lettre peut être rédigée avec beaucoup plus de soin et d'une manière plus précise qu'une présentation orale. Le Saint-Esprit a donc incité Jean à rédiger son message par écrit. Malgré tout, il voulait rencontrer ses lecteurs en personne.
Et oui, le contact personnel est souvent essentiel pour parvenir à de bonnes relations. Nous trouvons de nombreux exemples de contacts personnels dans la vie de Jésus. Efforçons-nous donc d'améliorer nos propres contacts avec les autres.
Et voici la fin de cette semaine et nous sommes le vendredi 18 septembre 2009. Et une fois de plus, nous avons quelques citations à vous proposer, tirées d'ouvrages d'Ellen White en particulier. Les apôtres enseignent que s'il est vrai que nous devons faire preuve de courtoisie, nous sommes autorisés à appeler le péché et les pécheurs par leur nom, ce qui n'est pas contraire à la vraie charité. Si nous devons aimer les êtres pour qui le Christ est mort, si nous devons œuvrer pour leur salut, nous ne devons faire aucun compromis avec le péché.
Ne nous associons pas aux rebelles en appelant cela de la charité. Dieu attend de son peuple, en cette période du monde, qu'il se lève, comme Jean en son temps, qu'il se lève sans flancher pour combattre les erreurs qui tuent l'âme.
Une autre citation. Ce dont le monde a le plus besoin, c'est d'hommes, non pas des hommes qu'on achète et qui se vendent, mais d'hommes profondément loyaux et intègres, des hommes qui ne craignent pas d'appeler le péché par son nom, des hommes dont la conscience soit aussi fidèle à son devoir que la boussole l'est au pôle, des hommes qui défendraient la justice et la vérité, même si l'univers s'écroulait.
Développons l'idée selon laquelle la doctrine ou les enseignements n'ont pas tant d'importance que cela, mais que ce qui compte, c'est d'être bon, aimant et tolérant.
Revenons sur l'idée selon laquelle l'obéissance aux 10 commandements est une manifestation d'amour. Essayons d'imaginer à quoi ressemblerait l'amour qu'on exprimerait tout en violant les principes des 10 commandements. Est-ce que cela aurait un sens ?
Que pensons-nous du fait d'appeler le péché par son nom ? Quelle attitude, exempte de jugement ou de condamnation, pouvons-nous adopter à l'égard des membres égarés ? Ne fuyons-nous pas notre devoir de chrétien en n'affrontant pas les frères ou sœurs qui agissent mal ? Comment résoudre cette question très difficile ?
Et dans quelle mesure notre Église locale pratique-t-elle l'hospitalité ? Comment l'aider dans ce domaine, si cela est nécessaire ? Eh bien oui, certainement. Voici à la fin de cette semaine d'études. Nous donnons donc rendez-vous à chacun d'entre vous, et à vous Dominique aussi, à...
pour la prochaine leçon, qui sera la dernière.
Qui sera la dernière de notre trimestre. À bientôt, chers amis.
À bientôt.
C'était votre leçon de l'école du sabbat. Merci et à bientôt. Que Dieu vous bénisse et Jésus revient.
Joyful and sing, Jesus is Lord.